Jonathan Daval, l'homme au double visage, épisode 4. En octobre 2017, Alexia Daval, 29 ans, disparaissait après être partie faire un jogging à Gré-la-Ville. 48 heures après les faits, Jonathan Daval, son mari, a avoué l'avoir tuée. En novembre 2020, après 3 ans de procédure, Daval a été condamné pour le meurtre de son épouse à 25 ans de prison. Cette affaire, en plein mouvement MeToo, avait ému la France entière. De nombreux reportages, papiers, livres ont raconté ce fait divers, certainement l'un des plus médiatisés de ces 10 dernières années. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Parmi tous les protagonistes de cette affaire, un homme s'est retrouvé dans la tempête médiatique. C'est Maître Randall Schwerdorfer. Avec Maître Ornelas Patafora et Maître Samuel Esteve, ils ont défendu Jonathan Daval. Maître Schwerdorfer, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Vous avez publié « Je voulais qu'elle se taise », un livre écrit avec le journaliste Frédéric Gilbert, paru aux éditions Hugo Doc, il y a quelques semaines. Votre livre, depuis qu'il est sorti, fait polémique. On va en parler. Certains de vos propos ont été choquants pour certains, certaines. Mais tout d'abord, Maître, pourquoi ce livre ?
Tout simplement parce que pendant et après l'affaire Daval, j'ai été extrêmement sollicité pour m'expliquer, m'exprimer sur la défense de Jonathan Daval. J'ai considéré que le format des émissions de télévision qu'on me proposait ne me convenait pas, parce que c'est trop compliqué de pouvoir tout dire et de pouvoir s'expliquer en profondeur sur un sujet aussi complexe que celui de la défense de Jonathan Daval. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre qui me permettait d'avoir notamment du recul, de la réflexion, par rapport à l'affaire, par rapport à la défense de Jonathan Daval, et c'est la raison pour laquelle j'ai opté tout naturellement pour l'écriture du livre immédiatement après le procès.
Quand vous rencontrez pour la première fois votre client, Jonathan Daval, quelle est votre première impression ? Et à ce moment-là, déjà, avez-vous une intime conviction ?
Alors en fait, je ne parle pas d'intime conviction, je parle d'impression. Et avec Jonathan, la première fois qu'on le rencontre, je suis avec Maître Patafora, il est accompagné d'Isabelle Fouillot, et c'est vrai qu'on a le sentiment de quelqu'un qui est extrêmement discret, très calme, il se dégage quelque chose de très... absolument pas de violence chez lui. On a le sentiment que on a vraiment affaire à quelqu'un qui est plus dans la case victime que dans la case auteur. Ça, c'est pour nous, c'est une évidence. Après, on s'est trompé sur notre jugement, mais c'est vrai que chaque fois qu'on l'a rencontré, y compris avant la garde à vue, on s'est dit non, ça peut pas être lui qui est impliqué dans l'affaire de la mort de sa femme. Voilà, c'était notre préjugé, on va dire.
Alors, on va en venir un petit peu plus aux questions qui fâchent, Maître. Dans votre livre, tout le monde en prend pour son grade, les journalistes d'ailleurs, avec leurs raccourcis. Ils parlent, je cite, d'une ville tranquille et sans histoire, d'un jeune homme sans histoire. Mais surtout, Maître, vous critiquez la récupération politique de cette affaire par des féministes comme Marlène Schiappa, pour ne pas la citer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous dérange ?
Ça me dérange parce que d'abord, ce qu'a fait Marlène Schiappa est contraire au droit. Et notamment au droit constitutionnel, c'est quand même extraordinaire que très peu de gens l'aient pointé du doigt. Un secrétaire d'État, un ministre, n'a pas le droit de s'exprimer sur une affaire, un assassinat. Or, il n'a jamais été question d'assassinat dans l'affaire d'Alexia, c'est-à-dire que jamais on a justifié le passage à l'acte de Jonathan par le comportement d'Alexia, on a simplement essayé d'expliquer, et elle a complètement hystérisé le débat, puisqu'après tout le monde s'est cru autorisé aussi de dire tout sur cette affaire, de critiquer la défense, alors que la défense est quand même un droit élémentaire dans une démocratie, et donc je trouve qu'il y a une véritable aussi récupération.
Alors, quoi qu'on en pense, Alexia est morte sous les coups de son conjoint. Mais vous refusez dans votre livre de parler de féminicide. Vous parlez, vous, d'uxoricide. Pourquoi et qu'est-ce qui vous gêne dans le terme de féminicide ?
qu'on va appeler des affaires de crimes possessionnels. C'est-à-dire que ce sont les passages à l'acte criminel qui sont visés sur des personnes, des hommes notamment, qui ont des comportements violents, d'habitude, possessifs, et qui ne supportent pas la séparation et qui tuent pour, dans le cadre de la séparation. Ce n'est pas du tout l'affaire de Jonathan Daval. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Jonathan Daval. Donc, on a voulu faire d'Alexia un symbole d'un terme féminicide dont elle ne sera jamais le symbole, puisqu'elle n'a pas vécu ça. C'était pas une femme battue, c'était pas une femme qui était isolée, c'était pas une femme qui vivait avec un homme pervers narcissique, comme on aime souvent le montrer. Jonathan Daval était aux antipodes des personnages qui sont ciblés dans les féminicides.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire uxoricide, maître ?
Alors le uxoricide, c'est le fait de tuer sa femme.
Il y a quand même deux lectures parce que
c'est les deux racines uxor et icide, c'est compagne et tuer. Voilà, c'est le fait de tuer sa compagne.
La théorie que vous tenez et qui est celle de Jonathan, hein, est que Alexia était une femme ingérable, dure, humiliante à l'égard de son mari et que donc elle l'aurait poussée à bout au point qu'il la tue. Vous comprenez, maître, que cela est difficilement entendable. Rien ne justifie que l'on tue.
On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais c'est pas juste, rien ne le justifie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la sanction de la peine de 25 ans est tout à fait justifiée, adaptée à la situation de Jonathan Daval. Par contre, ce qui est détestable dans la société actuelle, c'est que on ne peut plus expliquer. Le passage à l'acte concernant Jonathan Daval n'est pas un passage à l'acte dans lequel Jonathan Daval, de façon totalement isolée, sans aucun autre facteur, s'est dit un jour « Tiens, je vais tuer ma femme pour la tuer. » Ou parce que c'est une femme. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui devient détestable, c'est que dans l'affaire Jacqueline Sauvage ou dans d'autres affaires, toute la presse n'hésite pas, la vox populi n'hésite pas à agonir d'injures un homme parce qu'il aurait eu un comportement violent, un comportement déplacé, un comportement insultant.
Jacqueline Sauvage tabassée pendant 30 ans par son mari.
Mais je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de preuves de ces éléments-là, si vous voulez. Il suffit de le dire pour que ce soit une réalité dans l'affaire Daval. Je suis désolé, il y a une réalité du dossier.
On ne va pas parler de l'affaire Jacqueline Sauvage. Je sais que vous la prenez en exemple dans votre livre, mais les filles de Jacqueline Sauvage ont témoigné aussi de la violence dont elles étaient victimes, dont la mère était victime. Donc, je sais que vous en parlez dans votre livre, mais on ne peut pas, selon moi, comparer les deux histoires.
Simplement, si vous sur le passage à l'acte de Jonathan, moi, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Si vous voulez, le comportement d'Alexia, et c'est là où on a été pointé du doigt en disant mais on salit la victime, c'est inacceptable. D'abord, on n'aura aucun état d'âme si c'était un homme, la victime. Mais deuxièmement, c'est le dossier, c'est la réalité du dossier. Après, c'est pas ça qui va justifier, mais ça va permettre de comprendre que un homme dans son psychisme commence à détester son conjoint, commence à devenir extrêmement frustré, et puis commence à nourrir des intentions qui peuvent être parfois très malveillantes.
En tout cas, à la fin du procès, vous maintenez, donc on en vient, ce scénario du coup de sang de Jonathan Daval, alors que la famille d'Alexia, elle, est persuadée qu'elle voulait quitter Jonathan et qu'il ne l'aurait pas supporté. Qu'en pensez-vous ?
Mais la famille d'Alexia fait du révisionnisme judiciaire. En sortant du procès, la mère d'Alexia dit on va pouvoir tourner la page, on a eu les réponses, on va pouvoir faire le deuil de cette affaire. Aujourd'hui, ils expliquent qu'ils ne savent rien et que, manifestement, Jonathan a assassiné, c'est le terme qu'ils utilisent, Alexia, puisqu'il parle de...
Qui n'a pas été retenu, on précise.
Mais exactement. Et ils mettent en avant le fait que, Jonathan aurait empoisonné petit à petit Alexia et que Jonathan...
Par des médicaments.
Exactement. Ce qui est une aberration. Hein. Le procès l'a complètement démontré. Sinon, on aurait retenu l'assassinat. On a tous les droits concernant quand on est effectivement partie civile. Donc là, on remet en avant des éléments qui ont été totalement écartés par des investigations, par des débats très techniques, y compris en cour d'assises. Et puis, deuxièmement, on arrive avec cette théorie selon laquelle Alexia voulait quitter Jonathan. Ça ressort d'où ? Ça ressort pas des échanges de messages qu'il y avait entre eux. Ça ne ressort d'aucun témoignage qu'il y a dans le dossier, où simplement les amis avaient constaté que le couple n'allait pas bien. Il n'y a pas le moindre petit élément permettant de penser qu'Alexia voulait quitter Jonathan. Et pour une jeune femme qui voulait quitter son compagnon et qui voulait avoir un enfant, il faut m'expliquer alors pourquoi le soir où effectivement Alexia est décédée, elle avait mis un ovule gynécologique dans le cadre de son traitement pour avoir un enfant. Je ne connais pas d'autres compagnons à Alexia, il n'y avait que Jonathan. Et effectivement, pour quelqu'un qui veut quitter son compagnon, c'est assez étonnant. Donc, on peut réécrire l'histoire comme on veut, peut-être parce qu'on ne l'accepte pas telle qu'elle est, parce qu'effectivement, ce passage à l'acte, et c'est le titre du livre, ce coup de sang lorsque Jonathan a dit au juge d'instruction, qui lui a dit « mais enfin, pourquoi avoir continué à serrer? Pourquoi l'avoir étranglé ?» Et il a dit, et on sentait vraiment que c'était très lourd, « je voulais qu'elle se taise. » Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de ses reproches. Je n'en pouvais plus de ses critiques. Je n'en pouvais plus de ses humiliations. Alors, c'est pas justifié.
Non.
Mais ça permet de comprendre, effectivement, le passage à l'acte de Jonathan. Et comprendre, ça permet d'arriver à une peine de 25 ans et non pas à une peine de perpétuité, comme ça aurait été le cas dans un assassinat, voire dans ce que vous appelez un féminicide.
Mais pourquoi vouloir brûler le corps et les parties génitales de Alexia Daval?
Alors, il est passé dans le monde criminel après avoir tué Alexia. Et là, les comportements de gens qui ne sont pas des criminels nés ou qui ne sont pas dans la délinquance, lorsqu'ils passent le cap du criminel, leur cerveau ne fonctionne plus comme le cerveau de quelqu'un qui n'a pas tué. Et il y a quelque chose qui est très habituel et qu'on voit très souvent dans les affaires criminelles, chez des criminels qui ne sont pas des criminels d'habitude, qui n'ont donc jamais conceptualisé d'être un criminel, quelque chose de très humain, c'est le fait de ne pas vouloir être pris. C'est le fait de vouloir échapper à sa responsabilité. Mmh. Après, je sais que effectivement certains ont vu une symbolique dans la crémation, c'est-à-dire sur les zones où les départs de feu avaient été notés par le médecin légiste. Jonathan a toujours dit j'ai mis du produit inflammable vraiment sans savoir où je le mettais, enfin sur le corps. Je n'y avais pas de volonté de ma part, il n'y avait pas de symbolique de ma part de mettre du liquide inflammable plus à un endroit qu'à un autre. C'est vraiment au hasard des choses.
Merci, maître.
Au revoir, madame Guérasse. Au revoir.
Avant que l'on se quitte, cher auditeur, je précise que j'avais invité les parents d'Alexia à venir s'exprimer dans ce podcast, mais ils ont préféré décliner l'invitation. Les droits de leur livre, Alexia, notre fille, a été racheté par la Gaumont et leur histoire sera donc bientôt adaptée à l'image. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette saison de Homicide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes d'écoute préférées.